Bonjour.
Soyez les bienvenus pour ce colloque proposé conjointement par le département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de Paris, par l'association Les Amis de l'AENEC, par la revue l'AENEC et le centre l'AENEC destiné à la formation humaine, éthique, spirituelle et professionnelle des étudiants en médecine de la région parisienne. La distorsion entre le nombre des candidats aux greffes et le nombre de greffons disponibles en France est patente. Chaque année, des décès ont lieu qui auraient pu être évités. Il paraît éminemment souhaitable que les dons d'organes disponibles correspondent aux besoins réels qui se manifestent. C'est d'ailleurs une priorité nationale. Or, actuellement, deux polémiques de nature différente s'affirment qui risquent de nuire à la chirurgie des greffes, aux patients en attente par rapport à elles. On ne peut donc être dans le déni par rapport à ces courants. La première polémique est la conséquence des décisions prises par les pouvoirs publics, sensibles tout à la fois aux besoins et aux pressions, pour accroître le nombre de greffons disponibles. Ils ont ouvert la possibilité de prélèvements dits à cœur arrêté, qui ont lieu à la suite d'arrêts cardiaques non récupérés. Cette possibilité a été ouverte par un décret de 2005, sans débat démocratique préalable, sans que la société ait pu réfléchir à la portée de ce changement qui modifie les modalités de constat de la mort. Une telle discrétion ne peut que susciter le soupçon, l'absence ou l'insuffisance de débat crée un début de malaise. Des voix hautement compétentes se sont fait entendre, qui mettent entre autres en avant que ces nouvelles conditions de prélèvement rendent encore plus difficile la vérification auprès des familles du consentement du défunt, et elle pointe d'autres problèmes éthiques que l'on ne saurait écarter par une simple pichenette ou l'affirmation que nécessité fait loi, que la fin justifie les moyens. À terme, c'est en effet le statut du corps dans la société française, avec toute la dimension symbolique qu'il suppose, qui semble pouvoir être modifié. La seconde polémique provient de la remise en cause par certains courants du concept même de mort encéphalique. Mouvement certes limité, mais provenant de lieux suffisamment variés pour qu'on ne puisse les ignorer sans laisser naître et se développer des doutes qui, à terme, pourraient troubler de manière indue la population générale et les patients concernés et leurs familles en particulier. Troubles qui ensuite nuiraient sans doute inévitablement aux dons d'organes. Le mouvement en cause se fonde sans doute sur ou joue sur un flou des définitions, des approximations qui ouvrent la voie aux confusions. Les clarifications conceptuelles contraignent, heureusement, à la clarté des pratiques des prélèvements, alors que le flou favorise des dérives ou des écarts par rapport aux procédures définies avec sagesse pour ce domaine. Les écarts donnent à leur tour du grain à moudre aux opposants à ce que nous appelons la mort encéphalique. Ils y trouvent argument. Il importe donc d'appliquer le principe évangélique « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Des clarifications du concept de mort encéphalique paraissent s'imposer, auxquelles les organisateurs de notre colloque souhaitent apporter une contribution. Au cours de la première partie de notre rencontre, le père Patrick Verspiren, directeur du département d'éthique biomédicale des facultés jésuites de théologie et de philosophie de Paris, s'y emploiera. Dans une seconde partie, nous pourrons nous arrêter sur les implications du consentement présumé dans l'accueil des familles et sur le respect dû à ces familles. Puis, faire droit, enfin, à une réflexion sur les prélèvements d'organes à cœur arrêté. Mais en première intervention, il est apparu absolument nécessaire de rappeler l'organisation des prélèvements en France, et les repères juridiques et éthiques qui les déterminent. Le professeur Jacques Belghiti, du service d'hépato-pancréato-biliaire de l'hôpital Beaujon, membre du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, a accepté de faire cette présentation, qu'il en soit dès maintenant remercié, et je lui cède la parole.
Merci. Merci, je suis très touché de cette invitation. Et à travers votre exposé initial, on sent très bien que l'on va aborder des questions qui soulèvent débat. Alors, je suis chirurgien du foie, et la transplantation fait partie du traitement des maladies du foie. La transplantation marche, et mon implication dans la transplantation m'a donc amené, et je crois qu'il ne peut pas en être autrement, à m'intéresser au prélèvement, à la façon dont on recueille ce prélèvement, et cette implication m'a également donner des responsabilités internationales qui font que, à travers ce qui se passe dans d'autres pays, j'ai été confronté au questionnement, à deux questionnements, c'est la définition de la mort, et un deuxième questionnement très important, c'est la notion de la définition, si vous voulez, de consentement, à partir de quel moment il y avait un consentement, on pouvait accepter de faire un prélèvement. Et c'est la grande discussion entre le consentement présumé et le consentement affirmé. Lorsque j'ai débuté la transplantation hépatique il y a vingtaine d'années, les choses se passaient de façon pas très organisée, un peu par arrangements locaux. Et très progressivement, s'est mis en place d'abord l'établissement français des greffes, puis ensuite l'Agence de la biomédecine. Et je peux vous dire que cet établissement, l'Agence de la biomédecine, qui est destiné à assurer la transparence, la traçabilité et l'équité des prélèvements, est une instance que beaucoup de pays nous envient. J'ai tout de suite saisi une des premières notions que vous avez abordées. Quand on parle de transplantation, il faut des règles. Et quand on parle de règles, il y a tout de suite le fantasme de ceux qui se substituent aux règles, de ceux qui trafiquent, ceux qui soupçonnent. Ce que je peux vous dire, c'est, dans notre expérience, quelles sont les règles. Les règles, c'est qu'actuellement, ne sont prélevés que des malades qui sont définis comme ayant une mort cérébrale. Cette mort cérébrale qui fonde la transplantation en France, elle est affirmée à partir du moment où le réanimateur va faire un premier encéphalogramme, 4 heures après, confirmé par un deuxième encéphalogramme, et si jamais il devait y avoir d'autres raisons qui fassent que l'encéphalogramme soit faussement plat, par exemple s'il y avait une hypothermie ou s'il y avait prise de toxique, à ce moment-là, on est dans l'obligation de faire une artériographie. L'absence de vascularisation du cerveau définit la mort et il y a une possibilité à ce moment-là de faire un prélèvement. Ce prélèvement, il va être fait sur la base d'un consentement. Il va être organisé par l'équipe de réanimation avec une équipe chirurgicale et sachant que l'on va prélever des organes, je peux vous dire que ce prélèvement est une intervention chirurgicale dans ce qu'elle a de tout ce que, de complet, c'est-à-dire sur la préparation l'incision, la préservation des organes, la volonté de rechercher une asepsie maximum. Tous ces éléments sont le prélèvement d'organes qui est fait en plus par des chirurgiens qui sont compétents. Et ce prélèvement d'organes, il n'est décidé, malgré que nous soyons dans un consentement présumé, c'est-à-dire dans le cadre d'une solidarité, on pense a priori que la population, que celui qui n'a pas affirmé son refus et consent à ce qu'on lui prélève son organe, il se fait toujours après un avis et une demande de la famille pour vérifier qu'il n'a pas exprimé son refus. Je voudrais insister sur ce point. Mon expérience dans le milieu international m'a montré qu'il est impossible, si ce n'est dans une société totalitaire ou dans une société, il est extrêmement difficile de soigner sans avoir l'avis de la famille. C'est impossible. La famille doit être impliquée, et même dans des pays comme l'Angleterre, où il y a la notion de l'expression, où il y a une expression, le consentement affirmé, on demande quand même à la famille si elle est d'accord. Entre parenthèses, les pays qui ont le taux de prélèvement le plus élevé sont les pays qui ont la loi sous la loi de le consentement présumé. Quand on cherche à avoir le consentement affirmé, comme on le voit, il y a une tendance actuelle sur le consentement affirmé, eh bien, il y a à peu près la moitié du taux de prélèvement par rapport aux pays qui ont le consentement présumé. La France est, après l'Espagne, le pays où le taux de prélèvement le plus élevé, malgré qu'il y ait quand même 30% de refus des familles, ce qui pose un problème. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est que lorsque l'organe est prélevé, son attribution n'est plus depuis 2007, enfin en ce qui concerne le foie, bien sûr, l'attribution est faite à un malade. Auparavant, pour des raisons de commodité, pour des raisons essentiellement pensant que le prélèvement pouvait être favorisé par le dynamisme des équipes de transplantation, il existait une prioritisation des prélèvements vers les centres de transplantation. Il y a actuellement une tendance de plus en plus importante, et je crois que c'est souhaitable, à dissocier complètement le prélèvement de la transplantation. Autrement dit, c'est pas parce que c'est dans tel hôpital il va y avoir une équipe de transplantation efficace et dynamique que le prélèvement va être plus important. Et ça doit être complètement dissocié. Il y a des équipes, il y a des hôpitaux, ce qui, entre parenthèses, peut poser problème. Il y a des hôpitaux où il y a des taux de prélèvement importants sans que ça soit forcément lié à la transplantation. Et donc cette transplantation, elle se fait donc maintenant, elle est attribuée, les greffons sont attribués à des malades, parce qu'on s'est aperçu qu'il existait une très grande inégalité en France sur la possibilité de se faire greffer, très grande inégalité en fonction des régions. Ce prélèvement qui se fait à des malades, il y a un choix. Je pense qu'on ne sait pas que, par exemple, la France a fait le choix que les organes devaient être attribués aux malades pour qu'il y ait le moins de morts en liste d'attente, c'est-à-dire aux malades les plus graves. Je fais juste une parenthèse. Ce n'est pas le choix, par exemple, en Angleterre. Vous vous souvenez qu'en Angleterre, deux jeunes qui avaient des hépatites alcooliques aiguës de 18 ans, hein, l'un de 18 ans et l'autre de 17 ans, n'ont pas été transplantés. Il n'y avait qu'une seule façon de les sauver, c'était de les transplanter. Mais les médecins estimaient qu'à partir du moment où il s'agissait d'une maladie alcoolique, une hépatite alcoolique aiguë, c'était une maladie auto-infligée, que deuxièmement, ils n'avaient pas fait la preuve de leur, ils n'avaient pas fait leur preuve qu'ils étaient capables d'arrêter, donc on ne pouvait pas savoir ce qui se passait au point de vue après la transplantation, ils pouvaient reprendre leur alcoolisme, et que troisièmement, le fait de transplanter des jeunes de 17 et 18 ans qui avaient eu un alcoolisme aigu pouvait démotiver le prélèvement d'organes en Angleterre. Prélèvement d'organes qui est à 12 ou 14 pour 1 million d'habitants, alors qu'il est 24-25 en France. Lorsque, par exemple, mes collègues anglais m'ont téléphoné pour me demander qu'est-ce qu'on ferait, j'aurais dit, mais attends, il n'y a aucune question. S'ils ne sont pas transplantés, ils vont mourir. En France, nous les aurions transplantés. Nous les aurions transplantés. C'est un choix qui n'est pas le choix de toutes les équipes. Nous n'avons pas fait le choix de nous demander, nous faisons le choix d'éviter que des gens meurent en liste d'attente. Et je dois dire que la réforme qu'il y a eu très récemment sur la priorisation des organes aux malades les plus graves a permis de diminuer de plus de 15% la mortalité en liste d'attente. Alors, la greffe est victime de son succès. Elle marche très bien. Et donc, on s'aperçoit maintenant qu'il y a on a face à de plus en plus de candidats, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui pourraient vivre mieux, notamment pour le rein, ou vivre simplement pour le cœur, le foie ou le poumon, s'ils sont greffés. Et avec des gens dont on ne concevait pas qu'ils puissent être un jour transplantés. Et donc on a un déséquilibre qui est de plus en plus fort. Déséquilibre qu'on a du mal à essayer de rattraper. Heureusement, il y a de moins en moins d'accidents de la route, qui fait qu'il y a moins de morts cérébrales brutales. Il y a toujours un certain taux d'accidents vasculaires. Et on a une des façons de le compenser a été d'augmenter les critères. Par exemple, moi, en transplantation hépatique, autant ça puisse vous étonner, il n'est pas exceptionnel de prélever des greffons de donneurs de plus de 80 ans. Voilà maintenant c'était. Et j'ai été impressionné il y a trois semaines un coup de téléphone d'un de mes assistants qui me dit voilà, on a fait une greffe. Je lui dis oui, vous êtes malade. On a eu un très très bon greffon, 76 ans, pas de problème. Voilà, c'est rentré maintenant. Voilà où on en est pour l'extension des greffons au point de vue âge. Deuxième type d'extension qui est le donneur vivant. Alors pour des raisons compréhensibles. Le donneur vivant en termes de transplantation hépatique est en train de chuter. D'abord parce que les résultats sont moins bons, puis que deuxièmement, le risque pour le donneur, en tous les cas pour l'adulte, est trop important et il y a donc un recul. Pour des raisons pas claires à mon avis, peu compréhensibles, la France n'augmente pas le taux de prélèvement sur donneur vivant pour la transplantation rénale, mais je pense que c'est un débat qu'il faudra avoir. Alors, on voit donc extension à des greffons marginaux, extension dit marginaux, je suis désolé, mais étendue, faible extension qui ne se fait pas encore dans le domaine de la transplantation rénale et qui devra se faire. Parce que sinon, et je pense qu'on devrait discuter pour laquelle ça ne se fait pas. Et puis l'extension au cœur arrêté. Alors, le cœur arrêté, je sais que c'est un, vous allez en parler, je voudrais juste vous dire deux mots. Le cœur arrêté est rentré dans beaucoup de pays européens, à l'exception de la France et de l'Espagne, ou de l'Allemagne, est rentré non pas au cœur arrêté constaté, tel qu'on le voit, mais le cœur arrêté délibérément provoqué. En Angleterre, aux États-Unis, cela représente maintenant 10 à 15% des prélèvements d'organes chez des gens qui sont dans une situation de réanimation. On sait qu'ils ont des dégâts irréversibles, ils n'ont pas encore une définition de la mort cérébrale et qui ont un prélèvement d'organes qui va être fait après décision de l'arrêt des manœuvres de réanimation. Voilà, je voulais simplement, bon, je crois que j'ai à peu près défini, je voudrais surtout témoigner de cette de la façon dont ça se fait, et aussi un peu de mon expérience dans les instances internationales pour vous montrer à quel par rapport comment on se situe par rapport aux autres pays. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Il reste quelques minutes sur le temps qui vous était dévolu, et donc on peut demander à la salle s'il y a des demandes de précision.
Peut-être que M. Verspiren devrait parler.
Bonjour, j'ai une question par rapport au prélèvement justement à cœur arrêté. En fait, moi ce que j'avais compris, c'est qu'en fait le délai entre le prélèvement de l'organe et celui du décès, enfin la déclaration de la mort, est plus court que le délai d'un prélèvement d'organe dans un cadre de mort encéphalique. Donc d'où le problème que la famille n'est pas toujours prévenue à temps, et les problématiques éthiques que cela suppose. Quel est ce délai au niveau horaire, en fait?
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du... Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, ceux qui connaissent bien en Angleterre, en Espagne, le prélèvement à cœur arrêté, c'est un prélèvement qui se situe après l'échec des manœuvres de réanimation. Donc échec des manœuvres de réanimation, massage pendant 30 minutes, puis ensuite, à partir du moment où on pense que, après avoir tenté pendant 5 minutes, de voir que le cœur ne repart pas, on reprend à ce moment des manœuvres, si vous voulez, de massage, on va transférer le malade à l'hôpital, parce que c'est en général reconnu en dehors de l'hôpital, les arrêts cardiaques, transfert à l'hôpital, où il va être déclaré à ce moment-là, au bout d'un échec de ses manœuvres, c'est ça qu'il faut voir, comme d'habitude, il va être déclaré mort, ça va faire, il est massé, il est par partie, il est déclaré mort, et à ce moment-là, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'opposition, à ce moment-là, on met en œuvre d'une machine, on le perfuse pour le mettre en normothermie, etc., etc. Mais tout ça pour vous dire que, en ce qui concerne, oui, je sais, il n'y a pratiquement jamais de refus de la famille, parce que c'est un arrêt cardiaque. Ils savent qu'après les mesures de massage de cardiaque, il n'y a pas de refus, mais ça s'est situé dans des délais de plusieurs heures après l'arrêt cardiaque, hein, la demande. Hein. C'est jamais, tout se fait pas en 15 minutes, 30 minutes. Hein. Les délais entre l'arrêt cardiaque et le prélèvement sont au moins de 6 heures. Hein. 4 à 6 heures, ouais. Mais si vous voulez, bon, moi je suis pas très... Bon, je n'ai pas dit de bêtises. Si ? Sauf pour le taux de refus ? Je crois que les Espagnols sont... Enfin, nous en... Ouais. On verra ça après.
Moi, j'ai une question par rapport, vous êtes allé très vite sur les critères d'attribution des greffons.
Voilà.
En disant qu'en France, on allait direct à la maladie, aux maladies graves. Mais en fait, est-ce qu'il y a aussi un ordre en fonction, de l'âge, je suppose, Non. La distance ou c'est comment ça se fait l'attribution des greffons plus précisément en fait.
Moi, je vais vous l'attribution des greffons, par exemple, ce que je connais le mieux, c'est le foie. Il y a des hépatites fulminantes aiguës, par exemple une prise de médicaments ou une maladie virale, une infection par le virus B. Heureusement, il y en a de moins en moins, mais il y a quand même encore des lacunes dans la vaccination. Où vous avez tout d'un coup, en quelques heures ou quelques jours, quelqu'un va se mettre en insuffisance aiguë, et à ce moment-là, on fait une demande après expert, parce que ça c'est un point important. En France, toutes les attributions qui se font en urgence et qui se font en dehors des règles se font après avis d'expert. Et le malade est prioritaire, le premier greffon en France du même groupe lui est attribué. Deuxième situation, vous avez une maladie chronique, une cirrhose, tout de suite, hein. 15% seulement de cirrhose alcoolique. La plupart des cirrhoses sont des cirrhoses, soit des maladies virales, soit des maladies, d'autres maladies, donc vous le savez. Donc une cirrhose avec une dégradation progressive de votre fonction hépatique, et à ce moment-là, vous allez être inscrit. Et votre inscription et votre priorisation va dépendre d'un score de gravité. C'est-à-dire qu'on sait que si la bilirubine est élevée, que le taux de prothrombine est bas, à ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de points et vous allez être transplanté en fonction du nombre de points. Voilà. Voilà comment ça se passe. Pour le rein, c'est à peu près l'équivalent, sauf qu'il y a toujours une prioritisation pour le centre qui prélève, c'est-à-dire au point de vue régional, mais même le rein qui reste en local va être attribué un score en fonction de la gravité. L'âge n'intervient pas et l'ancienneté d'inscription n'intervient plus, en tous les cas. C'est ce qui est pour le foie. Pourquoi l'ancienneté d'inscription? C'est parce qu'il y avait une tendance chez un certain nombre d'inscrire en avance alors qu'on n'était pas très malade, et puis de temps en temps voilà. Non, la gravité, c'est un élément important.
Oui, bonjour. Donc vous nous avez bien expliqué pour les différentes modalités de prélèvement. Vous avez aussi souligné le fait qu'il y a la transplantation était victime de son succès, qu'on a besoin de greffons. Et donc, pour profiter de votre expérience à l'Agence de la biomédecine, quelles sont les voies d'orientation actuelles maintenant pour élargir le nombre de prélèvements?
Je crois que, indéniablement, l'orientation, d'abord, elle est médicale. Les progrès sont médicaux. Hein. C'est améliorer le fonctionnement de greffons qui sont de plus en plus âgés, de greffons qui sont atteints même de stéatose, hein, c'est-à-dire que ça c'est un point important, c'est que des greffons quand ils sont gras, ils marchent moins bien, donc améliorer ce fonctionnement avec des voies de recherche qui sont tant au niveau des liquides de préservation que très probablement quelque chose qui va se développer, qui est vraiment une grande voie, c'est la mise du greffon pendant quelques heures dans une machine qui va pouvoir mieux le préserver et mieux tester son fonctionnement. Donc là, voilà, c'est le point. Le deuxième point actuel, c'est clairement le donneur vivant pour le rein. C'est la voie fondamentale, la voie de recherche qui nous situerait vraiment, qui permettrait de résoudre un grand nombre de problèmes. Je suis pas transplanteur rénal. Je me suis intéressé à la transplantation par donneur vivant par l'intermédiaire du foie. Et depuis un certain temps, j'ai un regard, je me suis donc intéressé au rein indirectement. Et je me suis aperçu que il y avait deux obstacles qui me paraissaient qu'il fallait définir clairement. Le premier obstacle est la volonté de la réticence d'un certain nombre de chirurgiens à ne pas faire de prélèvement sur donneurs vivants pour le rein. En France, je parle de la France. Et le deuxième obstacle que je vous livre, parce que après tout, il n'y a pas de raison, c'est que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de centres de dialyse de propriétaires de centres de dialyse qui ne faisaient tout pour que leurs malades ne leur échappent pas et ne soient pas inscrits sur, ne puissent pas bénéficier d'une transplantation. Et la conjonction de ces deux corporatismes fait que la France a 5% de prélèvements sur donneurs vivants en termes de reins, alors que de tous les pays nordiques, les États-Unis ou d'autres ont entre 20 et voire même 60%. Voilà, j'espère que pour en reparler. Alors que les résultats sont meilleurs. Pour le donneur, en tous les cas, le receveur m'en tire bas.
Bon. Les demandes d'explicitation semblent terminées. Et on passe au... Je vais alors demander au docteur Renaud Grua, coordonnateur du réseau nord-francilien de prélèvement d'organes, qui est au centre hospitalier René Dubos à Pontoise, d'intervenir pour nous donner quelques précisions sur les modalités du constat de mort encéphalique, s'il le veut bien.
Je veux bien. Je veux bien, dès que la technique va le permettre. C'est le technicien. Évidemment, je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque. Le père Vespirène m'a demandé, avant d'intervenir lui-même, de rappeler brièvement, il m'a donné 5 minutes, alors vous devez faire en 5 minutes. 5 à 10. Ah, il m'a dit 5. Non, essayez de vous rappeler brièvement, pour que tout le monde ait ça à l'esprit, la façon, je resterai dans le factuel, hein, la façon dont le diagnostic de la mort encéphalique est porté dans notre pays. Alors, état de mort encéphalique diagnostique, parce que j'ai mis diagnostic entre guillemets, parce que peut-être qu'on verra plus tard pourquoi. Alors, c'est quoi l'état de mort encéphalique? L'état de mort encéphalique est caractérisé par l'arrêt de la perfusion cérébrale et ses conséquences. L'arrêt de cette perfusion cérébrale entraîne la disparition de toutes les fonctions cérébrales, puis la destruction irréversible de l'encéphale. C'est une situation rare. Ça représente à peu près 1% des décès hospitaliers en court séjour. Je rajouterai, par rapport à l'intervention du professeur Belghiti là, sur comment augmenter le nombre de donneurs, il ne faut pas oublier que dans notre pays, il y a encore un nombre considérable d'hôpitaux qui ne détectent pas ou qui ne recensent pas ces donneurs. Et je pense que si on améliorait ce recensement, on améliorerait beaucoup l'activité de prélèvement et donc de greffe. Alors, je sais qu'il y a des médecins et des... d'étudiants en médecine dans la salle, alors je vais faire bref quand même, hein, pour rappeler que, et pour faire court et simple, quoi, qu'on a une boîte crânienne inextensible, avec un contenu, que dans cette boîte crânienne inextensible, en os, il y a du parenchyme cérébral, qu'il y a du volume, un volume sanguin circulant, et du liquide céphalorachide. Que notre cerveau est globalement bénéficie de l'apport sanguin de deux systèmes, un système carotidien interne en avant et d'un système basilaire en arrière, et que ces systèmes vasculaires s'anastomosent au niveau extracrânien du pars et surtout au niveau intracrânien et aussi au niveau méningé. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue physiologie, c'est que ce cerveau, souvent, il représente pas beaucoup du poids du corps. Pourtant, tout le monde connaît son importance. Et pourtant, ce cerveau, qui représente pas grand-chose, Eh bien, ils consomment beaucoup du débit sanguin global, ils consomment 20% à peu près de l'oxygène que l'on consomme, un quart du glucose que l'on consomme, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, ces besoins, les besoins énergétiques de l'encéphale sont à la fois énormes et particulièrement sans réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, si l'encéphale est privé d'un apport sanguin, le sang qui va amener l'oxygène et le glucose et d'autres choses, eh bien que l'encéphale est donc rapidement extrêmement vulnérable et fragile et que sa destruction est considérée comme étant irréversible. Alors, quelles sont les causes, la physiopathologie peut-être de la mort encéphalique? C'est, bon, il y a deux causes, mais on verra, moi je pense qu'en fait, tout se résume à une seule. Bon, on comprend très bien que s'il y a une interruption totale de la circulation cérébrale, comme on pourrait rencontrer chez une personne qui se pend, ou chez quelqu'un qui fait un arrêt cardio-respiratoire et qui, par définition, n'a plus aucune circulation, on comprend bien qu'il y ait une interruption de cette circulation cérébrale. Mais surtout, la deuxième cause importante de cet état de mort encéphalique et de l'arrêt de la circulation cérébrale, c'est tous les phénomènes qui finalement augmentent la pression intracrânienne. Alors là, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop compliquées. On va dire simplement, là, si on regarde ces petites équations un peu bizarres, c'est que la PPC, c'est la pression de perfusion cérébrale, c'est-à-dire que c'est la pression nécessaire qu'il doit y avoir dans nos vaisseaux, je veux dire simplement, pour que le sang circule. La PAM, c'est la pression artérielle moyenne, et la PIC, c'est la pression intracérébrale. Il y a une pression dans notre cerveau, et que si cette pression intracérébrale augmente, on comprend que la pression augmente dans le cerveau, et il y a un moment où le sang qui arrive dans le cerveau ne peut plus pénétrer dans le cerveau. Ce qui entraîne une interruption, et par conséquent, une ischémie cérébrale. Alors, ça a été dit par le professeur Belghiti, les étiologies, c'est aujourd'hui avant tout les accidents vasculaires cérébraux, donc le mécanisme, on le comprend. Il y a une hémorragie intracérébrale, cette hémorragie intracérébrale augmente la pression intracrânienne et risque de faire en sorte qu'il n'y ait plus de circulation cérébrale. Il y a les traumatismes crâniens, je ne détaille pas, c'est le même phénomène, et les anoxies cérébrales qui sont un peu particulières, parce que d'où vient dans les anoxies cérébrales l'augmentation de la pression intracrânienne? Elle vient du fait que la plupart du temps, dans les anoxies cérébrales, se développe en post-anoxie, c'est-à-dire même quand la circulation repart ensuite, un énorme œdème intracérébral, et là aussi on a le même mécanisme, œdème qui augmente à l'intérieur de la boîte crânienne inextensible, augmentation de la pression intracrânienne et limitation et arrêt de la circulation cérébrale. Alors ce qui est un peu particulier, c'est pour ça que j'ai mis peut-être le diagnostic entre guillemets, parce que finalement, pour faire le diagnostic de mort encéphalique, eh bien il faut savoir que ce diagnostic est très encadré par la loi, voilà, et que moi je connais pas beaucoup de maladies en médecine où le diagnostic est encadré par la loi. Et d'ailleurs, je sais pas tout, mais à mon avis, j'en connais pas d'autres. Et il est précisé au niveau législatif que le constat de la mort encéphalique repose à la fois sur un constat clinique et sur un examen paraclinique qui atteste de la destruction irréversible de l'encéphale. Alors, sans insister trop longtemps, mais enfin, il faut quand même savoir, là j'ai fait une comparaison Royaume-Uni et France, que tout le monde ne fait pas le diagnostic de l'état de mort encéphalique de la même façon. Si on prend le Royaume-Uni, par exemple, avec le concept de brain stem death, pour rester simple, c'est on admet au Royaume-Uni qu'à partir du moment où le tronc cérébral, c'est-à-dire la partie qui est située sous l'encéphale, ne fonctionne plus, on peut considérer que le patient est en état de mort encéphalique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le tronc cérébral ne fonctionne plus, par essence, il n'y a plus de ventilation spontanée. Donc pour les Anglais, quelqu'un qui ne peut pas respirer lui-même, tout seul, est fatalement décédé. En France et dans d'autres pays, on est dans un autre système où on s'intéresse à la mort de tout l'encéphale, c'est-à-dire non seulement du tronc cérébral, mais aussi des émissaires. Alors on comprend tout de suite que, on le verra dans les examens paracliniques, nous on va beaucoup explorer ce qui se passe au niveau de l'encéphale, ce que ne font pas par exemple les Anglais. Alors rapidement, le diagnostic repose sur un certain nombre de points que je vais détailler rapidement. Faut prendre des précautions parce qu'on ne peut pas parler d'état de mort encéphalique chez des patients qui sont en hypothermie majeure, ça a été dit, qui présenteraient une hypotension artérielle majeure, qui auraient reçu ou auraient pris eux-mêmes des médicaments dépresseurs du système nerveux central qui se retrouveraient dans une situation de coma qui pourrait simuler l'état de mort encéphalique d'un point de vue clinique. Et enfin, évidemment, on ne peut pas examiner et faire diagnostic d'état de mort encéphalique chez des gens qui seraient curarisés, c'est-à-dire des gens qui auraient reçu des médicaments qui fait qu'ils n'auraient aucun mouvement et aucune ventilation. Alors, le diagnostic clinique, il est très important. Quelqu'un qui est en état de mort encéphalique, c'est quelqu'un qui se trouve en réanimation, c'est quelqu'un qui est intubé, ventilé en réanimation, c'est quelqu'un qui se trouve dans un coma profond, un coma flasque, chez un sujet dont le cœur continue, lui, de battre. Et pour faire le diagnostic de cet état de mort encéphalique, il faut s'intéresser à la réactivité du tronc cérébral et démontrer très clairement, très systématiquement et très sérieusement que plus aucun réflexe du tronc cérébral ne marche. Alors, je vous ai indiqué les réflexes en bas, je ne vais pas insister. Alors, concernant le diagnostic toujours clinique, il faut savoir que devant un état de mort encéphalique, on peut se retrouver chez des patients qui présentent ce qu'on appelle un diabète insipide. Pour ceux qui ne sont pas médecins, ça veut dire des gens qui font pipi beaucoup. Et beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Mais c'est inconstant. Et ça peut poser des problèmes, encore qu'en pratique, ça se rencontre assez rarement. Il faut bien comprendre que si on dit que l'état de mort encéphalique, c'est la destruction irréversible de l'encéphale, c'est-à-dire des hémisphères et du tronc cérébral, on comprend que pour autant, la moelle et les nerfs ne sont pas atteints. Ce qui veut dire que, pour ceux qui ont appris ça en classe de terminale en biologie, les réflexes médullaires persistent. Ça veut dire que quelqu'un en état de mort encéphalique peut parfois présenter ces réflexes qui sont, à mon avis, hélas, ont été décrits sous le terme de syndrome de Lazare. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée. Alors, ces mouvements liés à un automatisme ou des réflexes médullaires, ça peut être la flexion du bras, l'élévation des membres ou les fameuses attitudes en opisthotonos qu'on rencontrait dans le tétanos. Moi, de mon expérience, j'ai pas vu ça très souvent, mais on peut comprendre les problèmes que ça pose ensuite avec les familles. Quand vous annoncez à une famille, à une dame que son mari est décédé, et voilà que cette femme s'approche de son mari et par exemple lui prend la main et qu'il y a un mouvement. Bon, à ce moment-là, la femme peut pas penser effectivement que son mari est mort, et évidemment, dans les circonstances dont on reparlera tout à l'heure avec Madame Bicocchi, on peut comprendre aussi qu'on ne peut pas lui expliquer la physiologie. C'est pas possible. Alors après, il y a le diagnostic paraclinique, il est important. Alors dans tous les cas, la loi prévoit qu'un test d'hypercapnie soit fait. Alors là, il est détaillé sur la diapositive. Moi, je vais le simplifier. Ça veut dire quoi, le test d'hypercapnie? Ça veut dire que chez un patient qui est intubé, ventilé, préalablement très bien oxygéné, on fait des gaz du sang, c'est-à-dire on prend un peu de sang pour voir les teneurs en gaz carbonique et en oxygène du sang. On débranche le respirateur tout en mettant une sonde d'oxygène dans la sonde d'intubation. On attend au moins 10 minutes, mais on peut attendre un peu plus. On refait des gaz du sang et on rebranche le patient. Alors, comment on interprète cette épreuve d'hypercapnie, ou plus exactement, quand est-ce que cette épreuve est positive? D'abord et avant tout, quand pendant le temps pendant lequel le patient n'est plus en relation avec son respirateur, il n'a aucune ventilation spontanée, aucun mouvement respiratoire spontané. Et ensuite, on récupérera les deux examens qui ont été faits préalablement, les deux gaz du sang, pour montrer que pendant le temps où il était débranché, effectivement, si son taux d'oxygène n'a pas vraiment bougé puisque le patient a reçu de l'oxygène, eh bien, pendant le temps où il était débranché, le taux de CO2 artériel, de gaz carbonique artériel, a augmenté. C'est une preuve qu'il a bien été débranché. Et deuxièmement, ça montre aussi, vous savez que le CO2, c'est quand même le stimulus au niveau du tronc cérébral, de la ventilation, et que malgré tout ça, le patient n'a pas de mouvement respiratoire. Donc on a examiné le patient, on a fait l'épreuve d'hypercapnie, il reste à encore faire des examens paracliniques. Alors en France, on a le choix, on a soit les deux électroencéphalogrammes dont a parlé le professeur Belghiti. En France, on en fait deux. Ils doivent être espacés de 4 heures. En Espagne, par exemple, il n'y a qu'un électroencéphalogramme qui est fait. Nous, on en fait deux. Et pratiqué pas n'importe comment, dans des conditions assez précises. Alors, en amplitude maximum, interprété par un spécialiste et surtout, évidemment, sans que le patient ait reçu de médicaments dépresseurs du système nerveux central qui pourrait donner des fausses informations sur l'interprétation d'électroencéphalogramme. Alors, rapidement, voyez qu'on peut considérer que le tracé du haut, voyez qu'il y a des multiples oscillations et que voilà un électroencéphalogramme normal, et que si on regarde l'électroencéphalogramme du dessous, voilà ce qui a permis de dire aux gens l'électroencéphalogramme est plat. Alors, il faut juste savoir que parfois c'est un peu compliqué, ça n'apparaît pas bien sur cette diapo, c'est que quand on enregistre un électroencéphalogramme, évidemment, on enregistre l'activité électrique cérébrale, mais on enregistre en partie l'activité électrique du cœur, ce qui fait que sur certains tracés, ce qui correspond à l'activité électrique du cerveau est plate, mais que sur le tracé apparaît le tracé électrocardiographique qui, lui, n'est pas plat, et que, moi, je le fais jamais, mais certains de mes collègues qui disaient aux familles « Regardez comment l'électro est plat », ont eu des difficultés, puisque la famille disait « Mais il n'est pas plat ». Et alors là, rentrer dans des explications, encore une fois, physiopathologiques, c'est extrêmement difficile. Mais c'est vrai que les gens, on en reparlera peut-être avec Madame Bicocchi tout à l'heure, quand vous dites à quelqu'un « L'électroencéphalogramme est plat », c'est quelque chose que nos concitoyens connaissent. Voilà. Alors, on peut faire soit ces deux électroencéphalogrammes. Alors, l'intérêt des électroencéphalogrammes, rapidement, c'est que c'est fait au lit du malade et que chez ces personnes fragiles, ça nécessite pas de les transporter dans d'autres services, de les changer de lit pour faire des examens complémentaires. La complexité, c'est que tous les hôpitaux français ne sont pas capables de faire des électroencéphalogrammes 24 heures sur 24. Bon. Alors, qu'on choisisse ou qu'on ne puisse pas, on a aussi deux autres solutions. C'est ou on fait une artériographie cérébrale ou on fait un angioscanner cérébral. Dans les deux cas, on recherche la même chose. C'est quoi le principe de l'artériographie cérébrale? C'est finalement, on envoie, comme dans une radio, on envoie un produit de contraste susceptible d'aller opacifier les vaisseaux du cerveau. Et le but de l'examen, c'est de montrer que finalement, il n'y a pas de vascularisation cérébrale. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les diotapos. On voit qu'il y a une circulation en bas, là, mais qui s'arrête. C'est-à-dire qu'au niveau hémisphérique et au niveau encéphalique, il n'y a pas de circulation cérébrale. Là, je vous ai mis deux diapos, l'une représentant un patient en coma végétatif et l'autre en mort encéphalique. Alors, bon, c'est un peu difficile, mais on voit quand même que sur le patient en coma végétatif, on retrouve une circulation cérébrale qu'on ne retrouve pas sur la personne décédé en état de mort encéphalique. Et l'angioscanner cérébral, croyez-moi sur parole, mais quand on voit les deux clichés, soit un temps précoce, soit un temps tardif, je passe sur les techniques qui permettent, qui sont plus fines pour affirmer la non-circulation cérébrale, mais vous voyez que finalement, il n'y a aucun vaisseau visible, si ce n'est sur le temps précoce, sur le côté... Et que là, finalement, ça, c'est une opacification d'un vaisseau, mais vous remarquerez que l'opacification du vaisseau n'est pas dans la boîte crânienne, hein, puisque ça, c'est l'os, donc n'est pas en intracérébral, mais en extracérébral, et qu'en intracérébral, il n'y a donc aucune circulation cérébrale. Alors, si je résume, voilà un patient devant nous, il faut qu'il soit réchauffé, on a dit, pas en hypothermie, il faut qu'il soit le plus stable possible d'un point de vue cardiovasculaire, en particulier pas en hypotension, donc examen clinique, absence de conscience, coma flas, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et abolition de toute respiration. Si on n'a pas ça, on ne va pas plus loin. Deuxième étape, épreuve d'hypercapnie, dans les conditions que je vous ai expliquées. Troisième étape, examen paraclinique, soit deux EEG, soit l'angiographie, soit l'angioscanner. Si tous ces examens sont positifs de la façon dont je vous ai expliqué, alors, d'une part, il y a le certificat habituel de décès qui peut être signé, mais dans le cas des prélèvements et dons d'organes, aussi ce qu'on appelle le procès verbal du constat de la mort, qui est un peu différent du certificat de décès habituel, puisque celui-là n'est pas directement destiné aux autorités, mais il a comme particularité celui-ci de devoir être signé par deux médecins. Précaution supplémentaire. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. La clarté et la précision de ce qui vient de nous être expliqué permet donc au père Patrick Vers-Mirène de développer une réflexion autour des confusions et débats autour de la mort encéphalique. Le père Vers-Mirène est responsable du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres.
J'indique aux étudiants qui sont assis par terre ou dans des conditions non confortables qu'il y a de nombreuses places dans les 20, dans les 12 premiers rangs, ce qui ne les met pas tout à fait devant et qu'ils peuvent se déplacer.
Bien, merci à l'électronicien Éric Charmetan, qui travaille aussi au département d'éthique biomédicale. Alors, nous venons d'entendre un discours médical très précis, et on peut savoir gré que nous soyons parvenus à un degré de telle précision sur un état donné. Il est bien dit l'état de mort encéphalique. Bon, la personne est dans cet état, et le cerveau n'est plus perfusé du tout. On dit ensuite que la personne est décédée. Et je pense qu'on a raison de dire que la personne est décédée. Ce qui se passe quand même, c'est que, ma foi, ça ne va pas toujours de soi, et qu'il y a beaucoup de controverses, et des controverses qui se développent. Et il s'agit d'y prêter attention. Alors, mon but, c'est d'essayer justement de rendre compte, de parler de ces controverses, d'inviter à les écouter pour savoir y répondre. Et mon but, c'est d'essayer de plaider en faveur de la reconnaissance de cet état de mort encéphalique comme critère de la mort. Et je parlerai pour ça de critère neurologique, parce que c'est l'état du système nerveux central, ou en tout cas l'état du système nerveux dans le cerveau, qui est la clé de tout. Mais il faut bien savoir qu'il y a des controverses, et j'ai là le titre d'un rapport, mais d'un rapport du Conseil du Comité présidentiel de bioéthique des États-Unis, rapport tout récent de décembre 2008. Ce rapport rend compte d'un véritable débat important aux États-Unis, où il y en a qui approuvent totalement ce critère de la mort nouveau depuis 1968, et d'autres qui le contestent. Et parmi les contestataires se trouve le professeur Pellegrino, un médecin de très grand renom aux États-Unis, médecin philosophe, bioéthicien, qui dit dans une note de désaccord, le président de ce comité s'est cru en devoir de publier les conclusions du comité et de les faire suivre d'une note de désaccord. Bon, j'ai relevé deux phrases. D'une part, il dit que la question éthique centrale dans les prélèvements, c'est évidemment d'essayer de prélever des organes pour pouvoir greffer des personnes et leur donner le don de la vie, c'est un peu contestable, mais au moins leur permettre de vivre ou de vivre mieux, comme il était dit tout à l'heure, mais sans prendre la vie de quelqu'un d'autre. Donc, constater la mort aussi vite que possible, mais ne pas agir avant qu'on soit bien d'accord sur le fait que la personne est décédée. Et ce qu'il dit, lui, c'est que jusqu'à ce que les incertitudes et les imprécisions autour du continuum vie-mort si clairement reconnu, dit-il, si clairement reconnu par un philosophe, Hans Jonas, soit écarté, soit dissipé, eh bien, la vie morale d'Hans Jonas doit être suivie, doit être notre guide pour tout protocole de transplantation, c'est-à-dire qu'il faut renoncer au concept de, aux critères neurologiques de la mort. Et puis, c'est soutenu par d'autres auteurs, notamment, j'ai mis là le titre, vous voyez, l'incohérence du fait de déterminer la mort par des critères, par un critère neurologique. C'est paru dans la très sérieuse revue du Kennedy Institute, qui est quand même un des deux grands centres de bioéthique des États-Unis. Ça ne peut pas être écarté du revers de la main. En Allemagne, de même, je cite un article paru en français qui rencontre des discussions qui ont lieu en Allemagne avec l'influence de ce philosophe Hans Jonas, un philosophe allemand exilé au moment du nazisme, qui arrive ensuite au Canada puis aux États-Unis, très reconnu. C'est l'auteur du Principe Responsabilité, ouvrage reconnu comme très important. Donc, contestation dans certains milieux en Allemagne. Et en France, vient de paraître au mois de janvier cet article de deux sociologues, une sociologue française et une sociologue hollandaise, qui s'interrogent sur le comportement des milieux médicaux en ce domaine. Il y a donc des controverses. Il ne faut pas les écarter d'un revers de main. Alors, j'ai marqué. Il est indispensable de les prendre en considération. Pour ne pas tenter d'étouffer les questions, il n'y a rien de pire que les questions qu'on essaye d'étouffer parce qu'elles reviennent ensuite de manière irrationnelle. Il vaut mieux les entendre pour analyser ce qu'il y a par derrière, pour en estimer la validité et, le cas échéant, les récuser, mais au moins après avoir réfléchi. Et ça, c'est indispensable parce que désormais Internet existe et j'étais surpris des oppositions au prélèvement d'organes sur Internet. Mais ça peut réagir, marquer toutes les familles. Et puis, des conclusions sur lesquelles je reviendrai, ça montre la nécessité d'une stricte observation des règles reconnues dans le pays, donc des règles reconnues en France, parce que le grand risque, c'est que la méfiance s'installe, et peut-être à partir d'un seul cas, et je vous rappelle l'affaire d'Amiens, avec des prélèvements qui ont dépassé ce qui avait été dit à la famille, la cause des prélèvements d'organes a mis 4 ans à se remettre d'un seul événement médiatisé. Donc, il s'agit d'entendre des controverses. Pour ma part, je ne les soutiendrai pas, je les récuserai, mais justement, il faut les entendre d'abord. Une des questions que j'ai rencontrées dans les écrits que j'ai lus, c'est finalement, si on reconnaît ce nouveau critère de la mort, n'est-ce pas intéressé, n'est-ce pas utilitariste, entre guillemets, et tout ça, est-ce que c'est pas une règle pour permettre le prélèvement d'organes? Et je vois comme événement cité le fait que la circulaire Jeanneney, qui a introduit officiellement le concept de ce qu'on appelle aujourd'hui d'état de mort encéphalique, qui date du 24 avril 1968, a été suivie le 27 avril, 3 jours après, d'un prélèvement de cœur. Alors, comment interpréter ? On peut interpréter le professeur Cabrol a vraiment attendu jusqu'à ce que finalement les pouvoirs publics l'autorisent. Et là, c'est tout à l'honneur de sa patience, quand on connaît le professeur Cabrol. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions, puisque les choses étaient prêtes, pour que enfin la circulaire paraisse, parce que vraiment, la chambre stérile était installée, etc. Bon. Et puis alors, cette phrase du comité ad hoc de Harvard, de l'école de médecine de Harvard, qui est le texte mondialement connu, parmi les objectifs officiellement inscrits dans le texte, Il s'agit d'éviter les contestations de prélèvements d'organes qui seraient dues à des critères obsolètes en ce qui concerne la définition de la mort. N'est-ce que le but, c'est justement pas d'éviter les contestations et de déclarer les personnes décédées parce qu'on a besoin de leurs organes. Voilà ce qu'on trouve dans bien des articles. Alors là, je mets le titre de ce rapport du comité ad hoc de Harvard. C'est encore une fois le texte universellement cité. Il y en a peut-être de nouveau, je ne sais pas maintenant, mais ça, c'est tout de même la grande référence internationale. Alors le titre, une définition du coma irréversible, rapport du comité ad hoc de l'école de médecine de Harvard pour examiner la définition de la mort cérébrale. Vous voyez ce terme de coma irréversible. À l'époque, on parlait de coma dépassé en France. Là, le texte mondial se réfère à la notion de coma irréversible. Alors un médecin, il a entendu ce que disait le docteur Grua. Pour lui, ça renvoie à quantité d'examens, à toutes nos réflexions de physiologie, de physiopathologie, d'anatomie, de pression cérébrale, de ceci, de cela, de cela. Il y a donc tout un contexte médical par derrière et les médecins n'hésitent pas. Mais dans la population, votre patient, il est en coma irréversible. Et, bon, je parle mal l'anglais, mais en français, quand on dit coma irréversible, ça veut dire que la personne est comateuse. Si la personne est comateuse, ça veut dire qu'elle est vivante. Voilà donc un premier terme dans le texte fondamental de référence. Voyez l'inadéquation des termes, et ça va jouer un grand rôle. Vocabulaire inadéquat. Alors, la première phrase de ce texte officiel, enfin de ce texte qui est un texte de référence internationale, notre premier objectif est de définir le coma irréversible comme un nouveau critère de décès. Et je cite les traducteurs pour dire que ce n'est pas ma traduction à moi. Bon, ça ne tient... C'est un manque de réflexion. J'ai beaucoup d'estime pour le professeur Bitscher qui était le président de ce comité. Il a fait beaucoup, et notamment il était courageux, mais... Il aurait dû s'interroger sur l'emploi des mots et la portée des mots dans la population générale. Ça concerne... Docteur Grua disait il n'y a qu'un seul diagnostic qui est précisé dans la loi, celui de mort, enfin d'état de mort encéphalique. Mais oui, parce que ça concerne toutes les familles et ça concerne chacun. Ça ne concerne pas uniquement les médecins. En France, au départ, on a parlé de coma dépassé, mais ceux qui ont forgé l'expression de coma dépassé n'étaient pas sûrs que la personne était morte, les professeurs Mollaret et Goulon. Ensuite, on s'est mis à parler de mort cérébrale. Mort cérébrale en français et surtout en anglais, ce n'est pas clair du tout. Parce que cérébrale renvoie soit aux hémisphères cérébraux, soit à l'ensemble de l'encéphale. On s'est mis à parler ensuite de mort encéphalique, se rendant compte de l'ambiguïté du terme cérébral. Alors, mort encéphalique, alors là c'est très précis, mais mort. Si c'est une mort de l'encéphale, raisonnons un peu, quand on est pris affectivement, si c'est la mort de l'encéphale, ça veut dire qu'il y a un organe qui est détruit. Le cerveau est important, mais un organe qui est détruit. Mais si cet organe-là est détruit, où est la personne? Où est la personne? Et le corps? Et là, le philosophe Hans Jonas a eu tout à fait raison de lutter contre certains discours, ce qui a quand même temps, il récuse la notion d'état de mort encéphalique et de critère de la mort. Mais il écrit, nié au corps extracérébral, c'est-à-dire au reste du corps. Le reste du corps, c'est quoi? C'est 90%, 85% du poids du corps. Nier au corps extracérébral sa participation déterminante à l'identité de la personne est une ineptie, dit Hans Jonas. Dans sa conclusion, on peut la regretter, mais voilà ce qu'il écrit, il est très influent. Il était très influent. Je demande qu'aussi longtemps que le corps comateux respire, que le cœur bat et que les échanges cellulaires se font, on le considère comme le reste de l'individu qui a aimé, qui a été aimé, et a donc le droit à un respect sacro-saint. Mais pour lui, la personne n'est pas morte parce que son corps n'est pas mort. On a cru au départ, au bureau, tout ça, de toute façon, l'état de mort encéphalique est très précaire. Et moi, je l'ai entendu très souvent. On m'a toujours dit, il faut aller très vite dans le contact avec les familles, parce que tout peut s'arrêter très vite. Ben oui, mais avec la notion que tout va s'arrêter très vite, d'où le désarroi lorsqu'on a appris que des femmes enceintes ont été maintenues en état de mort encéphalique pendant plusieurs semaines, de manière à permettre la croissance in utero de l'enfant. Alors, dans l'article allemand sur l'Allemagne que je citais, on cite le bébé de Stuttgart, où la mère a été maintenue en état de mort encéphalique pendant 10 semaines, et le bébé d'Erlangen ou d'Erlingen, j'ai peut-être fait une faute, dont la mère était maintenue dans cet état pendant 5 semaines. Et ce cas a beaucoup impressionné le philosophe Hans Jonas. Et donc, il y a des fonctions qui peuvent être maintenues grâce à beaucoup d'interventions artificielles, mais certaines fonctions peuvent être maintenues. Avec cette question posée dans la revue du Kennedy Institute, comment la gestation serait-elle possible dans un cadavre? Il est difficile d'échapper à la conclusion que si la mort est cessation du fonctionnement vital de l'organisme, les patients chez qui on diagnostique une totale défaillance du cerveau ne sont pas morts. Voilà donc un article paru il y a un an et demi dans cette revue assez prestigieuse des États-Unis. Et puis, fondamentalement, affirmer la mort de la personne en état de mort cérébrale va contre l'évidence des sens. Moi, j'étais beaucoup impressionné en allant voir un confrère qui s'était noyé. Était-il déjà en état de mort encéphalique ou pas tout à fait? Mais j'étais très impressionné pour ma part, ayant tout de même été informé sur tout ça. Je n'ai pas été désarçonné, mais j'étais impressionné par un certain tic du visage. Ça m'a beaucoup surpris. Je me dis, mais s'il y aurait quelqu'un de la famille, comment réagirait-il? Et donc, en cas d'état de mort encéphalique, à la difficulté d'intérioriser la réalité d'une mort inattendue, et qu'on annonce à quelqu'un que quelqu'un était mort, qui 3 jours, on l'avait vu en pleine forme, la réponse, c'est dire, c'est pas possible, j'ai vu à 3 jours. Vous voyez, difficulté d'intérioriser une mort inattendue. Ben, ça ajoute la difficulté de dépasser les apparences. Puis dernière question, que je cite, l'absence d'une vraie définition de la mort. Tout le monde abuse de la définition de la mort. Je suis pas sûr que le docteur Gruen n'ait pas parlé tout à l'heure de définition de la mort. Mais écoutez, il n'y a pas de vraie définition de la mort. On peut dire, en philosophie, la mort, c'est la séparation de l'âme du corps. Ok. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, les philosophes vont dire, l'âme est le principe de vie. Ça veut dire que la personne est morte quand elle n'est plus en vie. Et on en revient là. Donc, Pellegrino peut regretter l'absence de véritable définition, mais il y a une opposition vie-mort, on peut guère aller au-delà. Donc, il n'y a pas de véritable définition de la mort, mais il y a différentes conceptions de l'être humain, différentes conceptions de la personne humaine, différentes anthropologies. Alors, les questions posées sont celles d'un critère de la mort, d'un critère, c'est-à-dire ce sur quoi une société va prendre appui pour affirmer que la mort s'est produite. On ne parlait pas de moment de la mort. On ne connaît pas le moment de la mort. Mais on essaye d'avoir un critère pour pouvoir affirmer que la mort s'est produite il y a déjà un certain temps. Et puis les justifications de ce critère. Donc, critère, mais la mort, on prend actuellement comme critère justement la mise totale et définitive hors de fonctionnement du cerveau, voilà le critère. Mais donc ce critère, on va voir s'il est rempli à partir d'un certain nombre de signes. Et ce qui déroute beaucoup de gens, c'est que ces signes sont différents d'un pays à l'autre. Alors je mets de côté la Grande-Bretagne, qui n'a pas les mêmes critères. Mais sinon, vous pouvez dans certains pays utiliser l'électroencéphalogramme, et puis dans d'autres pays, autre chose. Les signes paracliniques peuvent changer. Vous pouvez donc changer les signes, à condition qu'ils soient suffisants. Vous ne changez pas forcément le critère de la mort. Alors, au fond, nous parlons du critère neurologique de la mort, critère reconnu par la plupart des pays. Ce critère, c'est donc celui de la perte totale et définitive des fonctions neurologiques de l'encéphale. C'est à peu près ce que disait le docteur Greux, à peu près les mêmes termes. Alors, c'est cela que désigne l'expression malencontreuse de mort encéphalique, malencontreuse parce que ça évoque la mort d'un organe. Et donc, le constat de la mort d'une personne qui est en réanimation repose sur des examens d'ordre neurologique. Peut-être l'absence de respiration, tout ce qui se passe autour de l'œil, mais on en tire des conclusions d'ordre neurologique sur l'état du cerveau. Il est donc juste de parler de critères neurologiques. Alors, légitimation. Légitimation, je lis un texte. L'esprit humain est lié, l'esprit est lié physiquement au cerveau. Un être humain cérébralement mort, en état de mort encéphalique, ne peut plus jamais observer ou percevoir, ni travailler ou réagir, plus jamais concevoir, poursuivre ou exprimer une idée, plus jamais éprouver ni montrer un sentiment, plus jamais prendre une décision, c'est-à-dire la perte de toute possibilité d'activité et même de passivité dans le domaine mental, psychique, spirituel. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce que voilà, pour l'esprit, le mens, les capacités mentales et le corps. Alors, suite du texte, après la mort cérébrale, il manque du même coup à l'être humain l'activité du cerveau qui est coordinatrice, nécessaire à la faculté vitale de l'organisme, enfin, c'est un peu une répétition, vitale. Bon. Mais qu'est-ce qui est perdu? C'est la commande par le cerveau de tous les autres organes et l'intégration de leur activité en vue de l'unité d'un être autonome. Je supprime les adjectifs. Leur activité en vue de l'unité d'un être autonome, c'est-à-dire qu'il va réagir de lui-même. Et ça, c'est plus autre chose que la simple somme des parties. Alors, voici donc ce que produit le diagnostic de mort encéphalique. Quelle conclusion en tirer? Eh bien, les différentes conceptions de l'homme mettent l'accent soit sur le corps, mais dans ce cas-là, sur l'unité du corps et son autonomie, donc un ensemble un et autonome, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réagir de lui-même. Première insistance anthropologique. Ou bien, d'autres mettent l'accent sur les dimensions psychiques et spirituelles. D'autres sur le lien corps-esprit. Et je pourrais, mais je n'ai pas le temps, dire pourquoi il y a ces différentes anthropologies. Eh bien, en état dit de mort encéphalique, d'une part, toute capacité mentale, psychique et spirituelle est perdue. En outre, l'organisme n'est plus un tout unifié, ayant gardé quelques capacités de réagir à son environnement. Donc plus un tout unifié, autonome, à la différence d'autres états tels que l'état végétatif, où on peut s'interroger au niveau du mental, mais ce corps réagit, il réagit, d'abord il respire, et donc il essaye de se battre pour la vie. Et là, phrase du texte que j'ai lu, la mort cérébrale signifie donc quelque chose de résolument autre que l'inconscience permanente, qui ne constitue pas encore à elle seule la mort de l'être humain. Le texte le plus clair, donc, je l'ai trouvé dans la déclaration de la conférence des évêques allemands et du conseil de l'Église évangélique d'Allemagne, paru en 1990. En français, en 1993. Et je crois que c'est dans cette ligne qu'il faut réfléchir et qui montre que le critère neurologique de la mort tient. Mais en conclusion, En conclusion, je dirais que cet état dit de mort encéphalique est plus complexe qu'on ne le croyait. Mais il n'y a pas d'argument suffisant pour mettre en cause le critère neurologique, c'est-à-dire prendre appui sur cet état dit de mort encéphalique. Mais cela va contre l'évidence des sens, de ce qu'on voit, de ce qu'on touche. Le critère est contesté par des personnalités reconnues, et donc le désarroi des proches est bien compréhensible. Donc, la réflexion philosophique doit être poursuivie. Il s'agit de trouver un vocabulaire pertinent. Il y a encore beaucoup à faire pour aider la population à comprendre et à accepter ce critère neurologique. Il est éthiquement requis d'entendre la souffrance des proches. J'essaie surtout de rendre compte des raisons de la souffrance des proches et de les aider à intérioriser le fait de la mort en cas de mort encéphalique. Il est requis de chercher à favoriser la communication avec les membres de la famille et d'en prendre les moyens. Et un des moyens, c'était justement la création des postes de coordinatrice des prélèvements. Et je termine par ces trois phrases. En cas de désarroi persistant chez les proches, il s'agit d'essayer d'aider les proches à dépasser ce désarroi, mais s'il persiste, il serait inhumain de procéder au prélèvement. Les règles de constat de la mort reconnues dans le pays doivent être scrupuleusement respectées pour que le corps médical mérite la confiance de la population. Et en tout cas, tout scandale, tout dérapage en ce domaine serait ruineux pour la priorité nationale qu'est la transplantation d'organes. Je vous remercie.
Merci au père Verspiren de nous avoir permis de mieux comprendre les enjeux de la sémantique et les exigences de réflexion qu'il comporte. Nous avons maintenant un quart d'heure de pause. Vous pourrez trouver au stand qui se trouve à droite en sortant des numéros de la revue Laennec qui publiera le colloque de ce jour et qui a publié un colloque précédent sur la transplantation d'organes. Un quart d'heure, donc, de pause.
Merci, Patrick. C'était fort intéressant.
Mais ça rend service au PowerPoint.
Oh, c'est très bien. C'était très bien.
Parce que pour donner des références...
Oui, et c'est du coup, l'expression est plus vivante. C'est très bien.
Merci.